On se moque parfois de vous, ici aux États-Unis surtout.
Et je sais qu'il donnera le meilleur de lui-même.
So help me God.
Reagan, notre contemporain.
My name is Ronald Reagan.
You and I have a rendezvous with destiny.
Vous et moi avons rendez-vous avec le destin. Ainsi parlait Ronald Reagan. C'était pendant la présidentielle de 1964. Il soutenait alors la campagne très droitière du sénateur républicain Goldwater qui échoua, mais dont il avait senti qu'elle pouvait annoncer l'installation durable d'un courant conservateur. Reagan mettait sa célébrité et sa voix au service d'un programme qui combinait l'offensive contre les perversités de l'État et la défense des valeurs morales pures du pays réel. La gauche crut pouvoir s'en débarrasser en moquant son métier d'acteur, et pourquoi pas Liz Taylor au gouvernement. C'était négliger l'enracinement de Reagan dans la vie politique. Il accompagnait les républicains depuis des lustres avant d'obtenir son premier mandat gouverneur de Californie en 1966. Sans doute n'étudiait-il pas de très près les dossiers, les statistiques qu'il avançait pouvaient être fausses. Il inventait de toutes pièces pour ses meetings des personnages fictifs dont il faisait des épouvantails. L'exactitude n'avait pas beaucoup d'importance pour lui, mais il avait su identifier les courants idéologiques qui imposaient leur hégémonie intellectuelle et il s'était identifié à eux en toute bonne conscience. Il suffit de regarder autour de soi en France aujourd'hui pour voir que ce n'est pas seulement aux États-Unis que Reagan a marqué durablement les esprits.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Qui publie un très beau livre sur Reagan aux éditions Perrin qu'on attendait depuis longtemps et on a eu raison d'attendre. Je citais la bibliothèque Reagan du côté de Los Angeles et de Santa Barbara où vous avez beaucoup travaillé.
Oui.
Où se tient ce meeting des candidats aux primaires républicaines. C'est comment ?
C'est magnifique. C'est un cadre magnifique dans les montagnes californiennes de Californie du Sud. C'est sauvage. C'est dans un style, le bâtiment dans un style pseudo-mexicain, typique de la Californie du Sud. Et puis il y a les archives d'un côté et le musée de l'autre. Et c'est dans le musée que tous les quatre ans, on a ce grand débat républicain avec Air Force One derrière les pupitres des candidats, puisque le Air Force One de Reagan est dans un immense hangar dans le musée en Californie.
Et Nancy Reagan, toujours bon pied, bon œil, peut-être, sert encore d'hôtesse.
C'est ça.
C'est la deuxième épouse de Reagan. On va pas raconter l'histoire de sa vie par le menu. Il a fait lui-même deux autobiographies. Non, il aimait abreuver ses collaborateurs de petites histoires. Allez, en voilà une dont les membres de son cabinet étaient lassés. Il était une fois deux jumeaux, l'un optimiste et l'autre pessimiste.
Et alors leur père les met dans deux salles. Le petit garçon optimiste, on le met dans une salle remplie de fumier et on lui donne une pelle. Le petit garçon pessimiste dans une salle plein de jouets tout neufs, rutilants. On revient quelque temps après. Et le père retrouve le petit jumeau pessimiste tremblant dans un coin qui a refusé de toucher les jouets en disant « si je les touche, ils vont se casser ». Alors que le petit garçon optimiste, lui, il est en train de fouiller le fumier avec enthousiasme en disant « avec tout ce fumier, il y a un poney quelque part ».
Et il vit sur un vrai théâtre de la vie américaine dans son enfance, dans une petite ville qu'il considère comme un modèle dans l'Illinois, 200 kilomètres de Chicago.
Oui,
et il ne se rend même pas compte qu'il est pauvre, parce que la pauvreté, c'est une invention des sociologues.
C'est une invention des sociologues et du gouvernement. Les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient pauvres tant que le gouvernement ne leur a pas dit « vous êtes pauvres et on va vous aider ».
Mais il a de quoi être optimiste, parce que venu quand même d'assez bas, ayant fait des études dans une université extrêmement modeste, il devient commentateur de radio. Vous faites la moue quand j'en prononce le mot radio.
Non, c'était à l'université modeste que j'ai fait.
Ah bon,
on pourrait même dire médiocre.
Médiocre, oui, oui. Et dès 37, on lui donne un contrat à Hollywood, à la Warner. Il va devenir un acteur dont vous retracez la carrière. Elle a des hauts et des bas. Mais c'est souvent des rôles flatteurs. Le rôle du bon copain,
oui.
Quoi, à qui on peut avoir confiance.
L'Américain moyen, donc à qui on peut s'identifier. Donc il n'est pas impressionnant, mais en même temps, l'Américain plein, pétri de bonnes valeurs, et surtout l'Américain sauveur, le journaliste justicier, l'agent des services secrets, le journaliste, oui, l'avocat.
Et il s'est négocié le passage à la télévision avec un nouveau contrat en 1954 avec General Electric, ça c'est extraordinaire.
Oui, alors ça, il est pionnier pour ça, hein. Sur le plan économique, c'est un des premiers acteurs de cinéma qui voit l'intérêt économique en particulier qu'il y a à se recycler à la télé.
13h35 sur France Inter, à 21h le dimanche, c'était le rendez-vous le plus prisé des Américains, oui, qui obtenait des pics d'audience. Reagan présentait une courte fiction.
Good evening, I am Ronald Reagan speaking for General Electric. Tonight from Hollywood, it is my pleasure to appear in a story entitled The Dark, Dark Hours. Young James Dean, one of the bright new actors in Hollywood, appears with me on the General Electric Theater.
Alors, dans cette fiction de 30 minutes, James Dean avait le rôle d'un mauvais garçon qui, avec un copain, la nuit, ils étaient tous deux passablement amochés, l'un des deux blessé par balle, surgissait dans le cabinet d'un médecin, d'un bon médecin, Ronald Reagan, qui enfile sa robe de chambre, mais qui n'accepte pas quand même qu'on brave la loi et l'ordre, insiste sur le fait qu'il n'est pas chirurgien et sur son devoir d'appeler la police.
Yes. You the doctor?
Yes.
We had an accident here.
That's a bullet wound. Where'd you get that?
From a gun, man.
I'm sorry. I have to call the police. That's the law.
Law?
Look, boys, I don't know what you've done.
Now, you take out that bullet and stop talking.
I'm not a surgeon.
Well, fake it, Dad.
What?
Do the best you can. You dig me?
C'est pas Reagan qui, dans ses rôles, parlait comme ça. Il avait d'ailleurs une excellente diction.
Il avait une voix magnifique. Là, c'est vraiment, par rapport à sa future carrière politique, on sent qu'il a travaillé sa voix, qu'il sait la poser. Elle est réconfortante et elle sera un grand atout politique.
Mais dites-nous, comme Nancy, qu'il était beau aussi.
Il était très beau.
C'est fait. Il est embauché par General Electric. Alors, ça permet d'acheter une villa à Hollywood, équipée d'électroménagers pour Nancy, par General Electric. Mmh. Simplement, il doit faire une tournée, 16 semaines par an, dans les usines de General Electric. Et il leur raconte quoi ? Son combat sur le front du communisme à main nue à Hollywood, puis son combat contre les valeurs poreuses, molles des élites.
Oui, au début, il est censé juste être un représentant d'Hollywood pour raconter des anecdotes croustillantes, et très vite, ces tournées prennent un tour politique. Et effectivement, c'est General Electric qui lui demande d'abonder dans ce sens. Il devient le symbole de la défense du capitalisme américain contre l'infiltration communiste, qui, d'après lui, avait commencé à Hollywood juste après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, cette affaire de guerre froide va permettre d'installer le conservatisme dans les mœurs politiques américaines. Parce qu'il est reproché aux élites gestionnaires, molles et poreuses, de ne pas suffisamment défendre l'exception américaine.
Oui, les élites démocrates à l'époque, issues du New Deal et de la Seconde Guerre mondiale, qui sont des élites de la côte Est, qui, elles, ont été dans des grandes universités, internationalistes, et qui, d'après Reagan et les conservateurs, ne sont pas assez conscientes du danger communiste, et ne sont pas assez patriotes et ne se rendent pas compte, en fait, que la population, elle, a peur de cette infiltration communiste. Et donc, par cet anticommunisme, les élites conservatrices vont se mettre, pour la première fois vraiment depuis très longtemps, du côté du peuple, contre les dirigeants.
Alors, les angles d'attaque pour séduire les électeurs du peuple, la médecine administrée, eh oui, la lutte contre les mécanismes de sécurité sociale qui seraient une progression du socialisme. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'il refusait d'avoir appartenu aux catégories pauvres, la lutte contre les programmes sociaux de pauvreté. Alors, nous sommes dans le même discours de 1964 sur lequel vous insistez dans votre livre, Françoise Coste, où il fait campagne pour Goldwater, candidat républicain à la présidentielle.
Il y a tant de personnes qui ne peuvent pas voir un gros se tenir devant un maigre sans en arriver à la conclusion que le premier est devenu plus gros en profitant du plus fin. Alors ils veulent résoudre tous les problèmes de la misère humaine par des politiques gouvernementales. Mais si ces politiques gouvernementales et ces programmes d'aide sociale avaient la solution, et ça fait plus de 30 ans qu'ils disent l'avoir, ne serions-nous pas en droit d'en connaître les résultats de temps en temps ? Et maintenant, nous déclarons la guerre à la pauvreté. Croit-il qu'elle disparaîtra en ajoutant un nouveau programme à la trentaine déjà existante ? Donc, tous ces programmes, une fois lancés, ne disparaissent jamais. Et d'ailleurs, une agence gouvernementale est la chose la plus proche de la vie éternelle existant sur Terre.
Moins de médecine administrée, moins de programmes sociaux, l'État n'est plus une pieuvre et il ne va plus réclamer autant d'impôts. Voilà, c'est ça comme le mécanisme.
Alors ça, c'est l'aspect, c'est la dimension anti-étatique, libertarienne, diront certains historiens, du conservatisme américain de l'après-guerre, qui vient donc en plus de l'anticommunisme dont on parlait, et qui va aussi s'appuyer dans la célèbre trilogie fusionniste de l'après-guerre sur un retour aux valeurs morales traditionnelles et religieuses.
Trilogie fusionniste, et ça fait comme un trépied,
oui.
Et vaticine la pitié. Ronald Reagan, dont la voix est enchanteresse. Et il y a certains hommes d'affaires républicains ou dirigeants républicains qui, après l'échec de Goldwater, cherchent un renouveau avec une autre génération qui s'intéresse à Ronald Reagan et qui considère que c'est un cocktail puissant qui pourrait peut-être réveiller, par exemple, la Californie d'Hollywood.
Oui, alors c'est plutôt là des businessmen que des leaders républicains, justement, c'est pas des hommes du sérail. Il se fait approcher dès la fin de 64 par un groupe d'hommes amené par le plus grand concessionnaire Ford de Los Angeles. Il y a aussi un businessman qui a fait fortune dans le pétrole, ingénieur d'abord et puis ensuite qui a fait fortune dans le pétrole.
Et un
ancien boulanger qui a pris la tête d'une grande boulangerie industrielle. Et donc ces businessmen l'approchent et lui proposent de financer son entrée en politique et sa première campagne.
Et cette campagne a lieu en 1966 et provoque l'étonnement légèrement outré des reporters de télévision de 5 colonnes à la une, la fameuse émission française.
Monsieur Reagan, candidat républicain et conservateur, dispose théoriquement de plus d'argent que son adversaire. Le gouverneur Brown a pour lui son expérience et son étiquette démocrate dans un État qui théoriquement est démocrate. C'est dans le désert de Californie que nous trouvons le gouverneur Pat Brown. Il est venu poser la première pierre d'un barrage gigantesque qui fournira à l'État sa principale source d'énergie. Monsieur Reagan, lui, n'a pas de temps à perdre dans le désert. Ce qu'il lui faut, ce qu'il recherche, c'est le contact avec la foule. Il a besoin des applaudissements, car c'est sa drogue. Tous ses électeurs qui l'écoutent, sont-ils venus écouter le candidat ? Où sont-ils venus voir en chair et en os le héros du feuilleton de télévision ?
Ah, moquons-nous encore un peu. Tiens, il y a un acteur de télévision qui vient d'être élu président guatémaltèque,
oui,
dimanche dernier. Mais moquons-nous un peu comme aiment le faire les Français. C'est vrai qu'il n'est pas à l'aise dans les sujets locaux et que son histoire de barrage, là, cette histoire de barrage, d'aqueduc, il ne sait pas qu'en faire, il ne sait pas comment la combattre ni l'exposer.
En fait, quand il est approché par ses hommes d'affaires et qu'il accepte, il ne se rend pas du tout compte de ce que c'est gérer un État dans son aspect administratif, concret, de tous les jours. Et ça ne l'intéresse pas. Et en réalité, il ne fera jamais vraiment l'effort d'apprendre à comprendre ces mécanismes.
D'autant, continuant à nous moquer, que pour garder son apparence, il doit se coucher à 22h, faire la sieste le midi, etc.
Oui.
Mais ce sur quoi vous insistez dans votre livre sur Reagan chez Perrin, c'est qu'il est très à l'aise dans les idées générales et l'abstraction, au fond dans l'intellectualisation.
Disons qu'il est une figure de transition capitale parce que, au début, le conservatisme américain, cette fusion dont on parlait, c'est justement un mouvement d'intellectuels isolés qui écrivent dans des revues obscures que personne ne connaît, pas du tout charismatiques. Et c'est lui, en fait, le premier, beaucoup plus que Nixon, en réalité, qui va populariser, vulgariser ses idées. Et en plus, donc, ça, c'est un premier talent. Et le second talent, c'est que c'est des idées qui, dans l'absolu, peuvent paraître hargneuses, voire égoïstes, Et lui, il va les sublimer grâce à son sens de la métaphore et des valeurs en une idéologie dynamique.
Alors, on guette beaucoup ce qui se passe en Californie après son élection sous forme de raz-de-marée en 66. Il est installé début 1967. C'est un État, expliquez-vous, riche, mais traversé de fractures en ces années-là. La fracture raciale en 1969, les émeutes sur le campus de Berkeley à cause de la guerre du Vietnam. Cette année 69, d'ailleurs, c'est la sortie du film Easy Rider, où on voit deux, puis trois hommes dans une grande randonnée en moto à la recherche d'eux-mêmes. Ils vont y trouver tous les trois la mort donnée par des Américains moyens qui disent adorer la liberté individuelle, mais qui prennent peur dès qu'ils voient des hommes libres. Au départ d'Easy Rider à Los Angeles, Steppenwolf.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
N'en avez-vous pas assez du bordel à Berkeley? Ce slogan un peu grossier de Ronald Reagan quand il était gouverneur de Californie a eu des conséquences dramatiques en 1969. Pour avoir voulu rétablir l'ordre avec trop de vigueur, Reagan s'est sali les mains. Des charges de police ont fait un mort et plus de 100 blessés parmi les étudiants de l'université californienne. Son image soudain est devenue inquiétante. Ce n'était plus l'acteur de série B au grand cœur, l'Américain moyen plein de bon sens. Non, c'était devenu un réactionnaire. Il avait blessé la démocratie américaine. Il était dangereux.
Alors ça, c'est l'interprétation de TF1 de l'attitude de fermeté face aux étudiants de Berkeley du gouverneur Reagan. L'interprétation de Françoise Coste, que nous recevons pour son livre sur Reagan aux éditions Perrin et autres...
L'Américain moyen devenu réactionnaire, en fait, c'est peut-être Reagan, mais c'est surtout la majorité de l'électorat à l'époque. Donc, on peut être horrifié vu de France, mais Reagan se fait le porte-parole de l'Amérique profonde.
Et donc, ses électeurs lui sont reconnaissants d'être ferme, oui. Écrivez-vous.
Alors,
vous écrivez ça.
Oui. Ferme contre une certaine catégorie de la population, plus généreux et coulant avec d'autres. C'est-à-dire qu'on va soigner son électorat, y compris par des programmes financiers, sociaux, éducatifs, qui l'électorat de la classe moyenne blanche, là, l'électorat est en demande, en fait, de welfare pour lui-même. Ça, on le lui donne. Et pour tout ce qui est des minorités ethniques, des minorités étudiantes, des groupes qui commencent à apparaître dans les années 60 pour le droit des femmes, le droit des homosexuels, là, par contre, Reagan va se montrer d'une très grande fermeté à la grande satisfaction de l'électorat puisqu'il est réélu triomphalement en Californie l'année suivante.
Alors,
en 70.
Je retiens l'expression le welfare pour soi-même. Par exemple, il va trouver des alliés chez les écologistes à qui il offre une meilleure protection des espaces naturels.
La classe moyenne californienne, elle veut des universités et un environnement propre. On le lui donne et effectivement, il sera un gouverneur californien qui va protéger beaucoup de kilomètres carrés d'espaces sauvages. Il se sera un grand gouverneur écologiste.
Ah, je vois que vous avez une grande expérience vous-même du tempérament politique américain pour avoir vécu beaucoup aux États-Unis.
Oui, j'ai étudié, vécu aux États-Unis et puis aussi dans le cadre de la recherche de ce livre, passé beaucoup de temps aux archives.
Et maintenant vous enseignez pour le programme d'agrégation d'anglais à Bordeaux,
à Toulouse,
les républicains. Et alors, quand vous expliquez à vos collègues agrégatifs ou agrégatives, vous savez, ceux qui sont professeurs et qui veulent l'agrégation interne, tout ça, ils vous regardent avec des yeux écarquillés, vous leur expliquez que l'éducation nationale, c'est de l'ingénierie
L'un des grands griefs des conservateurs anti-étatistes, c'est la lutte contre le social engineering. C'est l'extrait de tout à l'heure sur les programmes de la guerre contre la pauvreté. L'idée que l'État peut lancer des programmes pour refaire la société. Donc, quand on explique ça aux étudiants, en réalité, c'est un terme qui n'existe pas vraiment en France, social engineering, l'ingénierie sociale. Alors que c'est très fréquent aux États-Unis, alors que ça, le phénomène, lui, existe. Et c'est vrai que l'éducation nationale est un gigantesque programme d'ingénierie sociale où l'État, par ses bureaucrates, dont je suis,
et alors vous faites
se
réfléchir,
charge de former la jeunesse.
Vous faites réfléchir vos étudiants et vous leur dites, voyez, les programmes d'ingénierie sociale comme celui de l'éducation nationale en France, ça aboutit souvent à des résultats inverses que ceux qu'on attend.
C'est ce qu'il fallait démontrer.
C'est-à-dire que ça provoque l'inégalité sociale plus que l'égalité sociale, oui. Quand vous apprend le vivre ensemble tous les jours 24 heures sur 24 et que ça produit le racisme, etc.
Reagan dirait, ça part dans l'absolu de bonnes intentions, mais ça finit par aggraver les problèmes que c'était censé résoudre.
Alors, Reagan est sur orbite présidentielle, évidemment, depuis qu'il fait ses deux mandats de gouverneur de Californie. En 76, il fait un premier essai, ça ne marche pas, mais à la fin de l'administration Carter, la situation internationale des États-Unis s'est dégradée avec l'affaire de la prise des otages américains de l'ambassade de Téhéran, et le contexte de politique internationale va beaucoup plus peser sur la campagne présidentielle qu'actuellement, ou que souvent.
Oui, c'est vrai, traditionnellement, les élections présidentielles américaines se jouent à l'intérieur, à la maison. Mais 79-80, c'est une période terrible pour les États-Unis dans le monde, avec, on a l'impression, de vagues successives inexorables qui, l'une après l'autre, vont miner la fierté américaine. Il y a le Vietnam, il y a les chocs pétroliers, il y a l'invasion de l'URSS, de l'Afghanistan par l'URSS en 79, et pour couronner le tout, symboliquement, c'est sans doute le plus difficile, la prise d'otages à l'ambassade de Téhéran.
Alors, il va jouer la carte dans sa campagne pendant les primaires républicaines de la cité brillante qui doit rester en haut de la colline, de l'île de la liberté qui doit rester inaccessible. Il prend la position du champion de l'honneur américain.
Now, there are those in our land today, however, who would have us believe that the United States, like other great civilizations of the past,
dans notre pays, il y a quand même des gens qui veulent nous faire croire que les États-Unis, comme d'autres grandes civilisations du passé, ont atteint le zénith, que nous sommes faibles et craintifs, réduits à nous chamailler entre nous, et que nous ne possédons plus la volonté de surmonter nos problèmes. Ils nous disent que nous devons apprendre à vivre avec moins, apprendre à nos enfants que leur vie sera moins remplie et prospère que la nôtre.
That the America of the coming years will be a place where, because of our past excesses,
ils nous disent que l'Amérique future sera un endroit où, à cause de nos excès passés, il sera impossible de rêver et de réaliser ces rêves. Je n'y crois pas.
And I don't believe you do either.
Et vous non plus, je le sais.
That's why I'm seeking the presidency.
Et c'est pour ça que je me présente à la présidentielle. Je ne peux pas accepter de voir passivement ce pays s'autodétruire. Je ne crois pas que notre nation doive se résigner à un inévitable déclin, laissant d'autres mains agir à sa place.
Discours de 79, interprétation Stéphane Ronxin, traduction Céline Loriou. Pas de remarques sur la traduction et l'interprétation ?
Très bien.
Bon, très bien. Donc, ils pourront se présenter à l'agrégation d'anglais. Plus de fierté, la paix par la force. Alors ça, c'est dans la nouvelle trilogie conservatrice qui se met en place. À la fin des années 1970, un élément de poids qui va être porté par ceux qu'on commence à nommer les néo-conservateurs.
Oui. Alors ça, c'est vraiment l'évolution du conservatisme dans les années 70, hein, avec l'émergence des néo-conservateurs qui sont souvent en réalité des anciens gauchistes, des anciens trotskistes, qui sont d'abord passés par l'antistalinisme, puis par l'anticommunisme, mais démocrate au début, donc des grands supporters de la guerre du Vietnam, qui au début est une guerre démocrate, il ne faut jamais l'oublier, et puis qui vont basculer à droite dans les années 70, parce que justement ils trouvent les démocrates là aussi, de moins en moins après le Vietnam, pas suffisamment dur contre le communisme, trop généreux dans les programmes sociaux. Et puis il y a aussi, en plus cet anticommunisme hardcore de la fin des années 70, on va retrouver dans la trilogie l'anti-étatisme qui va prendre à partir de ce moment-là la figure de la théorie de l'offre, centré sur la baisse des impôts, de manière quasi obsessionnelle. Et enfin, le conservatisme traditionnaliste qui va prendre le visage de ce qu'on appelle la Christian Right, la droite chrétienne, avec en 79 aussi la création du grand lobby évangélique protestant, la Moral Maturity.
Alors on avait une première trilogie, un premier trépied, souvenez-vous, dans les années 60. En voici un autre, et sur ce nouveau trépied, vaticine, l'appiti, Reagan. Il est capable d'inventer, pour critiquer les perversités de l'État-providence, de faux personnages. On se croirait dans un meeting d'hommes politiques français, je ne citerai personne. Madame Taylor, oui. La reine de Welford.
Linda Taylor.
Alors, il a vu passer le nom de quelqu'un qui, fraudait peut-être un peu sur les aides sociales. Et alors, il en a fait...
La Welfare Queen. En réalité, chez lui, elle n'avait même plus de nom. Elle n'était même plus une femme. Donc, son vrai nom, c'était Linda Taylor, qui était effectivement une femme noire qui fraudait les allocations familiales. Ça a toujours existé. Elle a fraudé, elle a été condamnée. Donc, en plus, elle a été débusquée. Donc, le système a marché, en l'absolu, dans son cas. Et puis, elle avait fraudé pour hauteur de quelques centaines de dollars. Et dans la campagne de Reagan, alors ça, c'est dans la campagne de 76, celle de 80, elle devient donc la Welfare Queen, une femme devenue richissime grâce aux fraudes, aux allocs sociales, qui s'est mariée plusieurs fois, qui a eu plusieurs enfants de chaque mari, qui a à chaque fois divorcé pour avoir des allocs, qui vit dans un HLM qui vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, dans un HLM de luxe avec salle de gym et piscine.
Ah, HLM 3 étoiles.
Voilà.
Et alors, il y a évidemment des journalistes consciencieux, comme il y en a en France, vous savez, qui tentent de faire des vérifications et qui disent « Mais non, c'est pas exact, il n'en a cure, il s'en fout, d'ailleurs il croit ce qu'il dit ».
Oui, il n'y a pas de service de désintox chez Reagan, il n'y a aucun recul critique, pas de mea culpa. L'important, c'est que ces anecdotes, bien que fausses, sont conformes à l'ère du temps, et par ces inventions... confirme tous les préjugés, je répète, de la classe moyenne, des petits contribuables qui sont dans ce cas-là mécontents de devoir financer la vie de la Welfare Queen.
Alors, est-ce qu'on peut préciser cette notion peut-être un peu vaporeuse d'ère du temps ? On voit renaître en France aujourd'hui des références à Gramsci, le théoricien marxiste italien emprisonné par Mussolini, qui dit, même quand on est dans la situation la pire, il faut combattre dans la volonté de créer une hégémonie intellectuelle. On parle beaucoup de la création d'une hégémonie intellectuelle conservatrice en France maintenant. Il s'en est créé une aux États-Unis.
Ah oui. D'autant plus que ce travail de fond des intellectuels repris ensuite dans la sphère médiatique et politique par Reagan, personne à gauche ne l'a vu venir. Par arrogance, mépris de classe aussi, quelque part, la gauche américaine s'est longtemps moquée, un peu comme on entendait tout à l'heure, de Reagan et des conservateurs, n'a pas vu le rouleau compresseur arriver. Et a mis beaucoup de temps à s'en remettre, certains diraient, mais ça n'est pas encore remis en réalité.
Ce n'est pas un acteur qui fait de la politique, c'est un politique qui n'est pas comme les autres parce qu'il sait se mettre dans des situations de carrefour intelligemment pensées.
Oui.
Reagan aux éditions Perrin, maître livre de Françoise Coste. Il va être élu brillamment en 1980.
Alors tout de suite, Dominique Bromberger, un coup d'œil en direct sur les résultats de ces primaires.
C'est véritablement un raz-de-marée qui s'est produit en faveur de Reagan d'un côté et de Carter de l'autre. En Floride, côté républicain, Reagan obtient 58% des voix, Bush 30% seulement, une proportion cette fois de 2 contre 1.
Une victoire plus que significative, Monsieur Reagan peut se permettre d'avoir le sourire.
Et Reagan fut élu 2 fois de suite, comme pour son poste de gouverneur de Californie, ne l'oublions pas. Et il y a très peu de livres sur la gauche américaine, dites-vous, il y en aura bien, Françoise Coste, qui vont paraître après la fin du deuxième mandat du président Obama. Émission préparée donc par Céline Loriou, Ilinka Negulesco, Franck Olivard et Frédéric Martin. C'est l'équipe de La Marche de l'Histoire.